Voix Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Bion, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. L'ex-président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a finalement été enterré dans son village natal de Kutama, dans le nord-ouest du pays, dans une tombe en béton. Dernière péripétie de 3 semaines d'une bataille au couteau entre sa famille et les autorités. Sa dépouille a été inhumée samedi lors d'une cérémonie ouverte quasi exclusivement à ses proches dans une cour de sa propriété de Kutama, à une centaine de kilomètres de la capitale Harare. Robert Mugabe est mort le 6 septembre à 95 ans dans un hôpital de Singapour où il se faisait soigner depuis des années. Et puis la nouvelle du jour au Cameroun, début du grand dialogue national sur la crise anglophone. Plus de 400 participants y sont invités pour essayer de trouver des solutions définitives à la crise qui secoue les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest depuis 3 ans. Il y a encore quelques questions en suspens, nous dit à Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jubenta.
La participation au grand dialogue national de tous les groupes armés opérant dans les deux régions anglophones et leurs chefs basés à l'étranger est l'une des questions encore en suspens.
Nous souhaitons, si c'est nécessaire, les assurances et garanties leur soient accordées.
Belobouba Maïgari, président national de l'UNDP, un parti de la majorité présidentielle.
Qu'ils peuvent venir librement, participer librement, s'exprimer librement et repartir librement.
Le gouvernement a aussitôt fait de rassurer les groupes armés par l'intermédiaire du porte-parole du Grand Dialogue National, Georges Ewane.
Tous ceux qui vont quitter la diaspora et qui vont participer à ce dialogue, personne ne va les arrêter. Personne ne pourra les mettre en prison. Les invitations ont été envoyées à certains sécessionnistes de la diaspora. Vous savez qu'il y a d'autres qui prêchaient la sécession, que le président avait libéré. Voilà donc la garantie.
Jusqu'à dimanche, seuls 5 jeunes membres d'un groupe armé ont été présentés officiellement à la presse en prélude au dialogue national. Sous anonymat, ces jeunes disent être venus prendre part au grand dialogue national pour le retour de la paix dans les zones anglophones. Quant aux principaux leaders séparatistes en exil, tous ont décliné l'invitation du Premier ministre.
Des préalables en ce qui concerne par exemple les sécessionnistes n'ont pas été pris en compte.
Aristide Modo, chercheur en sciences politiques à l'université de Yaoundé 2.
Je pense que dans de telles situations, il est important de mener déjà des captations de coulisses avec les différents acteurs avant de leur adresser des invitations officielles, ce qui n'a pas été le cas.
Dans les rangs du RDPC, le parti au pouvoir, l'on n'est plus que serein sur l'issue de l'initiative du président de la République. Hélène Tuente Kommafo, membre de la cellule de communication du RDPC.
Cet important événement est une occasion tant sollicitée par le peuple camerounais de l'extérieur comme de l'intérieur pour la paix dans le nord-ouest et dans le sud-ouest du Cameroun et pour l'ensemble de notre pays. Nous avons nos propositions également à faire. Nous le faisons pour soutenir l'initiative du chef de l'État.
Le dialogue national est enfin arrivé.
Les artistes ne sont pas en reste dans l'effervescence du grand dialogue national. L'artiste engagé Longue Longue, actuellement en froid avec le gouvernement, a joué de sa partition.
Tout le monde est concerné, tout le monde est dedans.
Dès ce lundi, 8 commissions vont travailler d'arrache-pied. Leurs membres sont des universitaires, des parlementaires, des hommes politiques, les autorités religieuses, traditionnelles, des membres des forces de défense et de sécurité, des victimes de la crise anglophone, entre autres. Leurs recommandations vont être examinées au cours d'une grande plénière vendredi prochain avant l'élaboration d'un communiqué final. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Nous allons aboutir de la crise anglophone et on cessez le feu.
Merci Emmanuel Julentap. En RDC, les fidèles de plusieurs paroisses catholiques ont été empêchés d'accéder dimanche à leurs églises par des manifestants. Ces derniers accusent le clergé d'être derrière un mouvement de grève des enseignants dans certaines écoles de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Eric Manirakiza.
Ces perturbations ont été observées dans au moins 5 paroisses catholiques, dont la cathédrale de Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, a indiqué la mairie. Des groupes de manifestants essentiellement jeunes ont occupé l'entrée de l'édifice, brûlé des pneus et scandé des slogans hostiles au clergé. Ils tenaient des calicots sur lesquels on pouvait lire « Chers parents, pas d'école, pas d'église ». Il n'y aura plus de messe dans les églises catholiques et protestantes tant que leurs écoles ne seront pas ouvertes. Ce rassemblement a finalement été dispersé par la police qui a fait usage de gaz lacrymogène. Les syndicats d'enseignants des écoles catholiques et protestantes ont suspendu les cours depuis mercredi. Ils réclament notamment l'octroi d'un salaire décent aux enseignants, au moins 300 dollars. Ils affirment avoir touché seulement un salaire de 120 000 francs congolais, soit 75 dollars au mois de septembre. Pour tenter de dégager la responsabilité du clergé dans le mouvement de grève des enseignants, l'abbé Patrice Mukata, coordinateur des églises catholiques de Bukavu, affirmait dans une lettre soutenir la prise en charge de l'éducation de base par le gouvernement congolais.
L'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, en prison depuis 2 ans et demi, a retrouvé la liberté dimanche à la faveur d'une grâce présidentielle et a été acclamé par une foule en liesse lors d'une traversée nocturne de la capitale sénégalaise. La remise en liberté de Khalifa Sall, réclamée par le soutien de 7 adversaires du chef de l'État sénégalais Macky Sall, a surpris les Sénégalais, bien qu'elle intervienne dans un contexte de décrispation politique orchestré par des chefs religieux musulmans. S'il bénéficie d'une grâce, Khalifa Sall n'est pas pour autant amnistié. L'amende à laquelle il a été condamné reste due et sa condamnation n'est pas effacée, ce qui ne lui permet en principe pas de recouvrer ses droits civils, notamment celui de se présenter à une élection. L'armée algérienne ne soutiendra aucun candidat à l'élection présidentielle qui doit se tenir en décembre, a annoncé dimanche le ministère de la Défense qui cite le chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah. Les contestataires qui forment un mouvement hétéroclite jugent qu'aucune élection véritablement libre et équitable ne peut être organisée en raison de la présence persistante au sommet de l'État de personnalités liées à un régime dont ils souhaitent totalement se débarrasser. Les rebelles houthis du Yémen ont libéré lundi 290 prisonniers, dont 42 rescapés d'une attaque aérienne dirigée par l'Arabie Saoudite contre un centre de détention ce mois, a annoncé le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, dans un communiqué. L'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffith, a salué cette initiative des rebelles yéménites qui entrent dans le cadre de l'accord de Suède conclu en décembre 2018 et a appelé toutes les parties à assurer le retour en toute sécurité des détenus libérés dans leur foyer.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le convoi funéraire transportant la dépouille de Jacques Chirac en France est arrivé aujourd'hui à l'église Saint-Sulpice à Paris, marquant le début de la cérémonie officielle en l'honneur de l'ancien président français en présence d'une trentaine de dirigeants étrangers, dont Vladimir Poutine. Le deuxième plus grand édifice religieux de la capitale française était comble, avec 2000 invités, dont 80 personnalités étrangères, chefs d'État et de gouvernement, anciens dirigeants et membres de famille royale. La police de Hong Kong a mis en garde aujourd'hui contre une situation très, très dangereuse. Mardi, dans l'Est colonie britannique, où de nouvelles manifestations pro-démocratie sont prévues à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de la Chine populaire, la région autonome du sud de la Chine, qui traverse depuis juin sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession en 1997, a été le théâtre de graves échauffourées dimanche entre policiers et radicaux qui ont incendié de nombreuses barricades dans des quartiers du centre de l'île. Actions et manifestations sont depuis près de 4 mois quasi quotidiennes à Hong Kong, pour exiger notamment des réformes démocratiques. Mais les tensions sont montées d'un cran ces derniers jours à mesure qu'approchent les célébrations demain mardi en Chine continentale du 70e anniversaire de la fondation du régime communiste. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a déclaré dimanche vouloir rencontrer le membre du renseignement américain qui a transmis le signalement de l'entretien téléphonique que le président a eu avec son homologue ukrainien en juillet dernier et qui a motivé l'ouverture par les démocrates d'une procédure de destitution. Les démocrates de la Chambre des représentants ont poursuivi leur enquête pour leur part pour impeachment en assignant à comparaître le secrétaire d'État Mike Pompeo afin qu'il transmette des documents concernant des contacts avec le gouvernement ukrainien. Et puis, Afghanistan, le principal concurrent du chef de l'État afghan, Ashraf Ghani, lors de la présidentielle qui s'est déroulée samedi, le chef de l'exécutif afghan, Abdullah Abdullah, a revendiqué la victoire aujourd'hui dans une conférence de presse. Nous avons le plus grand nombre de voix dans cette élection, a dit M. Abdullah en affirmant qu'il n'y aura pas de second tour. La commission électorale n'a pas encore annoncé les chiffres de participation du scrutin dont les résultats préliminaires doivent doivent être rendus publics le 19 octobre. Jean-Roger Billon à ce micro dans 50 minutes, un nouveau journal. Et ce sera en compagnie de Henri Francis. Bon après-midi à tous et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.